Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC.
L'essentiel de l'info Stéphane Genest, c'est d'abord la Russie qui confirme, la Russie a bien annexé une partie de l'Ukraine.
Quatre régions du pays de l'Est et du Sud, les pays occidentaux qui ne reconnaissent pas cette prise de territoire. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change, Alexandra Sirgan?
C'est près de 100 000 km de territoire ukrainien que s'approprie la Russie. Cette annexion marque un véritable tournant dans le conflit, selon Cyril Brett, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors.
Quatre territoires deviennent des sujets de la Fédération de Russie, ils bénéficieront de la protection de la dissuasion nucléaire russe et les populations de ces territoires seront mobilisables. Donc, le rapport de force sur le terrain militaire, pas immédiatement, mais à moyen terme, sera changé.
En revanche, pas de véritable changement de comportement à prévoir du côté des Occidentaux, explique Sylvain Kahn, géographe et historien spécialiste de l'Europe.
On va continuer à armer les Ukrainiens, on va continuer à les soutenir, on va continuer à être derrière eux, mais rien n'indique que les Occidentaux vont s'engager militairement dans le conflit.
Dans l'immédiat, les négociations entre Kiev et Moscou sont au point mort.
Des négociations au point mort, d'autant que la communauté internationale condamne ces annexions. Les États-Unis, qui devraient dans la semaine fournir une nouvelle aide militaire à destination de Kiev.
Les États-Unis qui sont frappés par Ian, cet ouragan rétrogradé en tempête désormais, mais qui a fait 23 victimes en Floride.
Et le bilan n'est que provisoire, il pourrait s'alourdir. Antoine Laron, on vous retrouve, vous êtes sur place, évidemment. Évidemment, c'est la désolation.
La situation reste très compliquée. Il y a toujours des personnes qui sont coupées du monde et dont on est sans nouvelles. Il y a donc des opérations de recherche et de secours qui se poursuivent dans des conditions difficiles. Il faut vérifier chaque maison, faire du porte-à-porte, tout ça sur une zone immense. Le travail est titanesque pour les secours. Ailleurs, les opérations de déblayage commencent. Il y a d'ailleurs beaucoup de solidarité avec des gens qui viennent aider. Mais là aussi, la tâche est immense. Il y a des débris et des dégâts sur des centaines et des centaines de kilomètres. Enfin, pour ne rien arranger, dans certains secteurs, l'eau continue de monter. Et ce soir, c'est une partie de l'autoroute qui est coupée par l'eau.
Antoine Eulard en Floride pour RMC.
Et puis le reste de l'actualité en bref, Stéphane.
Tout à moins 50% chez Camaïeu ce samedi. Dernière journée d'ouverture des 500 boutiques de l'enseigne avant leur fermeture définitive ce soir. Plus de 2500 personnes qui vont se retrouver sans emploi. Et puis l'imam Hassan Iqiyoussen arrêté hier en Belgique. Réaction ce matin du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il s'en réjouit. On y revient évidemment dans le journal de 8h.
La voix de Stéphane Genest va-t-elle tenir jusqu'à 9h?
Restez
bien avec nous dans la matinale week-end. Un peu de rillettes, un peu de miel, oui. 7h34.
RMC, le journal des sports.
Stéphanie Roch est avec nous. La Ligue 1, Stéphanie. Nice se déplace à Paris ce soir après une trêve agitée.
L'OGC Nice n'a pas rempli les objectifs fixés par la direction. Une décevante 13e place au général et déjà 4 défaites au compteur en 8 matchs. Très loin de la promesse de beau jeu que laissait entrevoir le retour du technicien suisse Lucien Favre. Explication, Maxime Tillette.
Après une trêve mouvementée et le nom de Mauricio Pochettino évoqué pour le remplacer, Lucien Favre est toujours là. Sur la sellette, l'entraîneur de Nice reste malgré tout focalisé sur sa mission.
Les rumeurs sont les rumeurs, mais pas de problème, je connais ça. On a une très très bonne réunion une fois où il s'est exprimé. C'était une discussion avec tous les joueurs, tout le staff, etc. C'était très bien. J'ai l'habitude, j'en ai vu d'autres. Moi, je me focalise sur les 11 matchs qu'on a jusqu'à novembre, puis le reste, c'est comme ça.
Le premier de ces 11 matchs est sans doute le plus difficile à Paris, mais pas question pour autant d'arriver dans la capitale sans ambition.
Nous, on veut faire notre match. On sait qu'il faut être très soudé pour ce match-là, très solidaire, très compact surtout, qu'il faut oser et qu'il faut le jouer. Il ne faut pas avoir peur, il faut jouer.
Les Niçois espèrent une bonne performance au Parc des Princes pour entamer leur remontée au classement.
Oser, après 8 journées, Nice compte déjà 14 points de retard sur le PSG. Match à suivre dès 21h sur RMC.
Et un peu plus tôt dans l'après-midi, Rennes se rend à Strasbourg.
Avec des certitudes, 8e au général, Bruno Genesio a des motifs de satisfaction. Les Bretons ont enfin trouvé leur rythme de croisière.
Je sens une équipe qui commence à prendre forme, à trouver ses marques. Et c'est ça qui va être très important sur ces 11 matchs. Il n'y a pas d'objectif de podium avant la trêve. Je pense que ce qui est important, c'est de continuer à progresser dans le jeu, parce qu'on sait que c'est grâce à ça qu'on aura sur la durée des résultats.
Rennes aura sûrement une statistique en tête cet après-midi. Strasbourg est la seule équipe de Ligue 1 à n'avoir gagné encore aucun match cette saison.
7h36, le criminologue Alain Bauer a remis un rapport, son rapport pour endiguer la violence dans les stades.
Un rapport diligenté par la Ligue de football professionnel après une année marquée par de nombreux débordements lors des matchs de première mais aussi de deuxième division. Timothée Mémon a pu le consulter.
Cibler les problèmes dans les stades de football français, c'est le vaste sujet qu'Alain Bauer, professeur au Conservatoire des arts et métiers en charge du pôle sécurité, défense et renseignement, a dû prendre en main. Pour ce faire, ce spécialiste des questions de flux dans les enceintes a réalisé un tour de table.
Les gens travaillent chacun de leur côté, se parlent peu. Donc l'idée d'avoir quelqu'un venu de l'extérieur permettait que chacun puisse parler librement.
Fort de ses conclusions, mais face aux spécificités locales, Alain Bauer prône des solutions au cas par cas.
Plutôt du sur-mesure que du prêt-à-porter. Définir une doctrine nationale mais une pratique locale avec des contrats de site qui impliquent la main tendue et le dialogue partenarial avec les supporters sous une forme ou sous une autre.
Les premières recommandations de ce rapport ont déjà été mises en place, mais Alain Bauer le reconnaît lui-même, il faudra du temps pour que cela porte ses fruits. Il faudra aussi convaincre les groupes ultras plutôt rétifs lors de la consultation, à l'image de l'Association Nationale des Supporters qui n'a pas souhaité y participer.
Le porte-parole de l'Association Nationale des Supporters justement précise aujourd'hui dans l'équipe qu'Alain Bauer ne les a pas sollicités. Et justement, puisqu'on évoque les débordements, Marseille a été condamné hier par l'UEFA à 30 000 euros d'amende, une décision qui fait suite aux incidents survenus lors de Tottenham-Marseille. C'était en Ligue des Champions le 7 septembre dernier.
Et puis, nous partons à Roland-Garros, pas pour de la terre battue, mais pour du sable tout ce week-end.
C'est la première édition du Beach Pro Tour, une compétition internationale qui regroupe les meilleurs spécialistes de la discipline. On parle bien sûr de beach volley. Alors, est-ce qu'ils porteront leurs lunettes de soleil aujourd'hui, leurs petites visières? C'est pas sûr, vu la météo, on en parlera tout à l'heure encore avec Peggy. La particularité de cette compétition, c'est qu'elle a lieu sur le central de Roland-Garros, un cadre mythique. Et sur place, le public répond présent, Maria Azé.
Du sable à la place de la terre battue sur le court Philippe Châtrier, un spectacle peu habituel à Roland-Garros mais qui attire les foules.
Le stade est très sympa, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de musique, donc moi j'adore.
Ça super parce que c'est sur le central aussi, du coup il y a tous les gradins, tout le monde qui encourage et puis le terrain au milieu, c'est incroyable quoi.
Au total, près de 15 000 personnes sont attendues sur le week-end, notamment pour soutenir les 4 paires françaises, dont celle de Yannick Croult.
Je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de monde, c'est vraiment super cool.
Et à moins de 2 ans des Jeux de Paris 2024, ce tournoi, c'est aussi l'occasion pour les organisateurs de promouvoir le beach volley, David Donnelly.
Ça fait partie de ces sports qui sont très spectaculaires et qui fonctionnent très très bien pendant les Jeux Olympiques. T'es toujours sur des sites, des endroits magnifiques. Et il y a un truc avec ce sport qu'on a envie de faire découvrir au plus grand nombre.
Et pendant les Jeux, c'est sur un autre lieu mythique que le public viendra soutenir les beach volleyeurs, puisque c'est sur le Champ de Mars que seront installés les terrains de sable.
Et oui, le beach volley, c'est spectaculaire. Allez les voir jouer. Programme aujourd'hui les quarts puis les demi-finales qui se joueront à 21h avant la finale demain après-midi dès 16h.
Et puis a priori pas trop de pluie, en tout cas moins que quand c'est le tennis.
Oh, oui, beaucoup moins. Ça devrait bien se passer
pour le beach volley. Soyez